franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, le mystère de l'atmosphère solaire enfin résolu, alors que la surface de notre étoile ne fait que 6000 degrés, entre guillemets, les températures dans l'atmosphère du Soleil peuvent atteindre, elles, plusieurs millions de degrés. Observation déroutante, évidemment, qui est restée pendant des dizaines d'années parmi les grands mystères inexpliqués de la physique. La solution vient d'être publiée par un petit groupe de chercheurs français et nous accueillons pour en parler l'un des auteurs de cette étude parue dans Nature, Tahar Amari. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS et à l'École Polytechnique. En studio également, Philippe Hénarejos. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Philippe, ce mystère de la température de l'atmosphère solaire, c'est un vieux démon, une vieille obsession pour les astrophysiciens.
C'est un vieux mystère, parce que d'autant que je me souviens de ma carrière de journaliste scientifique, j'en ai toujours entendu parler.
C'est vrai.
J'ai aussi entendu parler à plusieurs reprises de travaux qui faisait état de progrès dans cette compréhension-là, pas plus tard qu'en 2013, il me semble. Mm-hmm. Et donc, effectivement, il y avait quand même un mystère qui date depuis le début du XXe siècle, à savoir comment le Soleil, qui est à environ 15 millions de degrés en son cœur,
dans son noyau,
ouais. Dans son noyau, mm-hmm. qui se retrouve à 6000 degrés ou 5800 degrés à sa surface. On voit que ça diminue à mesure que l'énergie se remonte. Comment ce soleil qui est à 6000 degrés à sa surface passe tout d'un coup à 1 million, voire 2 millions de degrés dans sa couronne? Alors, la surface, c'est difficile. Le soleil, c'est une boule de gaz. Mm-hmm. Donc, la surface optique, en tout cas, celle qu'on voit, ce qu'on appelle la photosphère, est à 6000 degrés. Et au-dessus, il y a un milieu beaucoup moins dense qui est constitué de particules, d'électrons, d'ions, etc., enfin d'un plasma, comme on dit en science, et ce plasma est chauffé jusqu'à 1 à 2 millions de degrés. Alors c'est bizarre parce qu'on se demande comment quelque chose de relativement froid, on va dire, arrive à produire quelque chose d'extrêmement chaud.
6000 degrés, c'est très froid, évidemment. Voilà. Et l'homme que vous avez en face de vous, c'est Tahar Amari, c'est lui qui nous donne la solution, publication Nature cette semaine. Sur ce complexe, ce phénomène très complexe, donc qui ressemble un petit peu à une histoire racontée à des enfants, puisqu'il y a des mots que vous employez, vous parlez de forêt, de mangrove, voire même de cordes de guitare. C'est quoi l'histoire finalement, alors, de cette différence de température?
Eh bien, l'histoire, c'est d'aller, comme on vient exactement de l'entendre, d'aller chercher à chauffer ce qui devrait, en apparence, rester froid.
Ouais.
Et comment le chauffer, en fait? Si on simplifiait l'histoire, on dirait que c'est aller chercher de l'énergie, d'où elle peut probablement venir, c'est-à-dire de l'intérieur du Soleil, mm-hmm. pour aller la restituer à l'extérieur. Et cette énergie, en fait, on est allé la chercher, donc à l'intérieur du Soleil, et cette énergie s'est en quelque sorte transformée en de l'énergie magnétique qui représente une forêt, qu'on a appelée une forêt, avec des racines, proche d'une mangrove, parce que les racines qui sont créées par l'intérieur du soleil lui-même,
oui.
vont émerger, vont sortir, vont devenir proéminentes. Et comme une mangrove, ces racines vont donner suite, et disons, dans un prolongement de tronc d'arbres magnétiques. Alors évidemment, on parle de racines, on parle de tronc, de lianes, mais avec un grand mot derrière, magnétique.
Oui.
Et en fait, ces racines vont simplement servir à convertir l'énergie qui vient de l'intérieur du soleil pour la restituer. Donc de l'énergie de l'intérieur du Soleil qui devient de l'énergie magnétique, dans des racines magnétiques, pour la restituer aux couches, à la couche dans laquelle ces racines se trouvent, qui s'appelle être la chromosphère, qui a une 10, 15, 20 000 degrés, et qui va la restituer comment? Comme un bâton de relais d'un coureur cycliste autour d'une piste d'athlétisme. Le bâton de relais étant l'énergie, eh bien c'est l'intérieur du Soleil la restitue aux racines, les racines la restituent au milieu par des éruptions. Les éruptions solaires, des petites éruptions, rien à voir avec les grosses éruptions solaires qui nous viennent jusqu'à la Terre, dont on a déjà parlé il y a quelque temps, eh bien, ces petites éruptions multiples vont donner le bâton de relais au milieu et libérer une quantité d'énergie. Et libérant cette quantité d'énergie, eh bien, ces racines vont continuer, ces éruptions plus exactement, vont jouer de la musique. Vont jouer de la musique comment? Elles vont jouer de la musique en venant cogner les troncs d'arbres. Et les troncs d'arbres, c'est les troncs d'arbres magnétiques. Et ces troncs d'arbres magnétiques, comme une corde, ce que l'on pince et qui va produire un son, eh bien le son, l'onde, la vibration vont être des vibrations magnétiques qui vont prendre le reste d'énergie et l'amener dans la couronne.
Donc c'est ce système racinaire, si je vous comprends bien, qui va propulser au fond la chaleur au-delà de la surface du soleil en permettant donc cette température à des millions de degrés.
Oui, racines et troncs, oui.
Ouais. Axel.
Toutes ces racines, tous ces troncs, quand on observe le soleil, on peut les voir d'une certaine manière?
Alors, c'est une excellente question parce que le mot clé, le mot important, c'est magnétique. Or, on ne voit pas le champ magnétique. Toute l'atmosphère solaire, c'est un peu comme de la limaille de fer. Il existe un champ magnétique derrière, mais on ne voit jamais le champ magnétique. Donc, ce que l'on voit quand on observe le soleil, c'est du rayonnement, mais on va dire c'est de la matière. On voit la matière, les mouvements de matière. Mais derrière, au même titre que quand on jette de la limaille de fer autour d'un barreau aimanté, on voit se matérialiser le champ magnétique qu'on ne verrait pas, mais qui est pourtant là, et on va voir tout un tas de phénomènes. Donc, on ne voit pas les branches magnétiques, mais on voit la matière qui les constitue, c'est-à-dire des boucles solaires. Mmh. On voit, par contre, il est beaucoup plus difficile de voir les racines, mais on voit les tas de phénomènes. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit une météo solaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas la météo de l'espace qui nous vient jusqu'à nous, mais ça veut dire des jets, ça veut dire des tornades, ça veut dire des petites éruptions. Tous ces phénomènes qui constituent une petite météo et qui vont donner même naissance à des vents de millions de kilomètres heure, eh bien, prennent naissance dans son milieu. Et donc, tout cela, on le voit. Mais le champ magnétique, on ne le voit pas.
Donc il faut imaginer le soleil comme un sandwich au fond, hein, avec ses différentes températures, le noyau donc avec des millions de degrés, cette atmosphère aussi avec des millions de degrés, et entre les deux, donc ce serait la saucisse à 6000 degrés en surface, hein, si on veut imaginer les choses comme ça. Philippe Hénaré, heureusement que Tara Marie nous explique ça avec des images, parce que tout le monde s'est arraché les cheveux sur la publication. Hein.
Oui, c'était terrible quand même. La physique solaire, j'en sais hélas quelque chose, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, c'est une mangrove dans laquelle on peut se perdre facilement. J'avais une question. Votre travail, d'après ce que je comprends, repose sur des simulations numériques. Alors, est-ce qu'il est corroboré par des observations et est-ce qu'il y a des observations futures à mener pour le valider ?
Voilà. Dans tout travail, spécialement lorsque l'on propose des explications, il faut voir d'abord si, surtout quand il s'agit de simulations, si ça produit des résultats qui se rapprochent de ce que l'on observe. Mmh. Donc, premier type de question, eh bien, qu'est-ce que l'on observe ? À la surface, nous sommes allés puiser le fonctionnement du Soleil dans une couche à l'intérieur du Soleil. On ne voit pas l'intérieur du Soleil, on voit l'extérieur du Soleil. Par contre, qu'est-ce qu'on voit ? En surface du Soleil, on voit déjà, très bien, on sait le mesurer, le champ magnétique à toute petite échelle. Il a été beaucoup étudié. Donc, le modèle produit un champ magnétique. Regardons le champ magnétique qu'il produit. Et il y a une bonne relation proche entre le champ magnétique déjà produit par le modèle, par la simulation, et ce que l'on observe. Ensuite, je vous ai parlé de tornades. Sans même réfléchir à produire les tornades, puisque nous sommes posés simplement la question de savoir comment l'énergie de l'intérieur du Soleil va se produire, va passer la barrière de cette barrière de la surface du Soleil, nous avons trouvé des tornades. Il y a également des jets. Nous avons trouvé des jets qui ont été observés, qui ont fait une publication de nature, il y a 2-3 ans. Les tornades ont fait une publication de nature, mais elles étaient étudiées individuellement. Donc il y a un certain nombre de phénomènes que nous avons, que le modèle a produit sans chercher nécessairement à les produire.
Donc nous avons enfin la solution ?
Non.
Ah.
Non, c'est obligé que vous ne trouverez pas un chercheur.
C'est ce que tout le monde a dit pourtant. Ça y est, on a enfin trouvé la solution à ce problème.
Non, nous avons regardé le problème différemment. Nous retrouvons beaucoup de choses. Mm-hmm. Mais dans le problème, il y a des grosses parties, comme du plat, et puis il y a des parties un peu plus petites. Nous avons apporté une contribution intéressante.
C'est le moins qu'on puisse dire. C'est quand même une très belle avancée sur cette question posée donc par la chaleur de l'atmosphère solaire. Merci beaucoup, Tar Amari. Publication donc dans la revue Nature cette semaine. Merci également, Philippe Hénaré-Josse. Et Axel, on se retrouve lundi.
Lundi, on écoute les podcasts tout le week-end et on se retrouve lundi.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un lien entre l'âge des parents et le risque d'autisme chez l'enfant vient d'être confirmé. Près de 6 millions d'enfants répartis sur 5 pays ont été suivis de 85 à 2009. Et le verdict de cette cohorte internationale est sans appel. L'âge avancé des deux parents est un facteur aggravant de la maladie. Première surprise, l'étude confirme le rôle du père dans l'apparition de la maladie. Lorsqu'il a plus de 50 ans, le risque d'autisme s'élève à 66%. Deuxième surprise, les chercheurs notent une légère augmentation du risque également chez les très jeunes mères. C'est à ce jour la plus large étude portée sur ce sujet. Il n'avait jamais vu autant de calculs rénaux auparavant. Le docteur Wei Yubin n'en revient toujours pas. Il vient de retirer pas moins de 420 calculs rénaux à un homme de 55 ans. L'opération a duré un peu moins de 2 heures et selon le médecin, cette concentration de cailloux a une explication très simple, la passion débordante du patient pour le tofu. Ce chinois avoue en manger tous les jours depuis 20 ans et ne boire que très peu d'eau, rendant son élimination dans les urines très compliquée. Il faudra donc désormais accorder cailloux avec tofu. Et puis pour finir, l'un des plus grands requins blancs jamais observés a été filmé au large de l'île Guatalupa au Mexique, prénommé Deep Blue. Il mesure plus de 7 mètres quand ses semblables atteignent difficilement les 6 mètres. L'expert Mauricio Hoyos Padilla, qui est l'auteur de la vidéo, affirme que c'est le plus grand requin blanc qu'il ait jamais vu. Vous pouvez comme d'habitude voir la vidéo du monstre tournant autour de la cage d'un plongeur sur la page Facebook de la Tête au Carré.